France Culture.
Les nuits de France Culture.
Il y a parfois des destins qui se lisent comme ceux d'un personnage de roman, remplis de rebondissements, d'échecs cuisants et de succès retentissants, avec des péripéties à peine croyables. C'est le cas de Jean Lursa, peintre, sauveur de la tapisserie, mais aussi maquisard et résistant. Dans cet entretien avec Gilberte Prosolette, il raconte ce que fut sa vie sous le régime de Vichy, de sa fuite d'Aubusson en 1942 à l'invraisemblable acquisition de son atelier, ensuite devenu légendaire, des Tours Saint-Laurent dans le Lot. Un destin exceptionnel raconté par l'artiste lui-même, c'est tout de suite, dans un entretien enregistré en février 1964.
Verdun et toutes ces horreurs, au total quand même, ces tueries affreuses, et ça marque un homme pour toujours, ça, n'est-ce pas ? Et la fin de la guerre, enfin arrivée, je suis retourné à la peinture. Et là, j'ai fait une carrière de peintre uniquement, quoique faisant d'une façon un peu homéopathique, c'est-à-dire à peu près tous les ans, je faisais une ou deux tapisseries, n'est-ce pas ?
Vous étiez déjà attiré par la tapisserie.
Ah oui, parce que j'ai oublié de dire une chose essentielle, mon Dieu. Pourquoi ? Et ça explique tout. Quand, 6 mois avant 1914, avant juillet ou 1914, j'avais trouvé un de mes amis qui était un fresquiste étonnant au point de vue technique et qui était un esprit qui m'intéressait beaucoup et qui m'aimait beaucoup, etc. Et j'avais décidé de tout lâcher, la peinture, pour devenir fresquiste, c'est-à-dire peintre mural. Et j'avais signé avec lui un contrat de 2 ans apprenti. J'avais un contrat d'apprenti. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec lui, nettoyer les pinceaux, et puis l'aider à étendre le mortier sur les murs, etc. Or, la guerre est arrivée, 14, il était officier de réserve, il est parti, le pauvre vieux, puis un jour, on n'a plus de trace, dans une attaque, disparu complètement. C'est-à-dire que je me trouvais ensemble son patron, si j'ose dire. Je dis patron dans le sens médical, vous comprenez, hein. Alors, ça posait pour moi un problème extrêmement grave. Comment arriver à apprendre la tapisserie, enfin, d'une façon cohérente, sérieuse. Et puis, en même temps, ça m'a fait poser des problèmes extrêmement sérieux, mais pardon.
Alors, vous avez été déçu et vous avez cherché.
Ah ben, évidemment, quand je me suis aperçu que pour copier cette aquarelle, il fallait un mois de travail et que cette aquarelle avait quoi 40 cm carrés. Il fallait une quantité de laine et puis c'était imparfait, vous comprenez ? Alors j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et vous savez, de fil en aiguille, on corrige les épreuves ensemble, pas d'un seul coup, mais par paliers, n'est-ce pas ? Alors petit à petit, j'ai senti d'abord qu'il fallait faire d'abord des projets spéciaux, n'est-ce pas ? Et puis, comme je ne pouvais pas les peindre, ces projets, qu'il fallait, en somme, les couleurs, les numéroter. Et ça a été, en somme, le commencement, sans que je m'en doute, 30 ans avant, de cette réforme que j'ai introduite dans la tapisserie, le carton numéroté. N'est pas ?
Alors, pour vous qui l'avez ressuscité, la tapisserie, que doit-elle être exactement ? Que doit-elle être ?
D'abord, un saumon ne remonte pas seul la rivière. Je ne l'ai pas ressuscité. J'ai été peut-être le premier croisé, enfin le premier homme qui a cru vraiment que ça pouvait et surtout que ça devait recommencer. Et à m'acheter tête baissée, c'est-à-dire seulement en 38, n'est-ce pas ? C'est-à-dire y passer mes journées, etc., et à faire mon prêcher-prêchat, vous comprenez. Mais ce qu'elle doit devenir, en somme, elle est en train de devenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire des immenses murs, des très grands murs tout au moins, dans les bâtiments publics. N'est-ce pas ? Avant, un château, c'était une espèce de bâtiment public. Eh bien maintenant, les grands lieux de réunion collective, ce sont les églises, les banques, les conseils d'administration ou les salles de délibération, comme par exemple ce que j'ai au Palais de l'Europe, à Strasbourg, n'est-ce pas ? Ou ce que j'ai dans le grand hall de réception du siège central de l'Union des banques suisses à Zurich, ou le palais Farnèse à Rome. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? La grande tapisserie murale, la tapisserie, c'est un art éminemment mural. Et cette petite tapisserie, comme forcément on en fait, de même qu'un musicien est obligé de faire des gammes pour s'entraîner, etc., la petite tapisserie, en somme, c'est le premier échelon de la tapisserie qui doit aboutir à la tapisserie de 500 mètres. Et pour un homme ambitieux comme je le suis, je ne le cache pas, impérialiste même, je prépare toutes les bassesses et toutes les démarches pour recouvrir de tapisserie la muraille de Chine. Ça n'a que 4000 kilomètres, c'est pas énorme. Ça peut se faire.
Mais par quelles étapes en êtes-vous arrivé à ce point, à cette perfection ?
Ah, ça, alors, je ne continue à parler que si vous enlevez le mot perfection.
Enlevons.
Non, alors continue.
Nous enlevons, il est enlevé, je le barre.
Vous l'avez barré. Non, mais n'est-ce pas, pensez qu'il y a déjà quoi ? J'ai commencé en 1915. N'est-ce pas ? C'est entendu, pendant des années, j'en ai fait à dose homéopathique une ou deux par an. Mais maintenant, depuis que je suis allé à Aubusson en 1939, j'en ai fait une moyenne au minimum de 7 à 8 mois par an. N'est-ce pas ? Et j'ai exécutant mes tapisseries. J'ai certainement, en France et dans certains ateliers européens, une centaine de personnes qui constamment exécutent mes tapisseries, ce qui présente quand même une certaine avalanche d'expériences, d'échecs ou de réussites. Il y a des échecs, il y a des réussites. Et c'est comme ça que se font les choses. C'est comme le ski. On ne devient pas champion sans s'être cassé deux fois des chevilles, avoir sauté on ne sait combien de...
Quand vous êtes arrivé à Aubusson, vous avez eu du mal à persuader les anciens maîtres de la lice à suivre vos conseils et vos idées.
Écoutez, on ne peut pas en vouloir. Tout changement d'habitude, tout changement de climat, tout changement de philosophie, de religion, de comportement, même de moyens de transport. Moi, je connais des gens qui me disent « Comment, à votre âge, vous faites de l'avion ? Moi, j'en ai une peur épouvantable, etc., n'est-ce pas ?» Eh bien, là-bas, c'était la même chose. On faisait à Aubusson. On tentait de faire à Aubusson, qui était littéralement en ruine, complètement, n'est-ce pas ? On ne faisait plus que de la copie du 18e. Eh bien, tout art, tout métier, tout atelier, tout esprit qui fait de la copie d'ancien, sur quelque plan que ce soit, c'est une démission. Ou tout au moins même, c'est pour les responsables, j'entends, je ne parle pas des exécutants, c'est une lâcheté. Celui qui dit maintenant je veux du 18e, il n'a pas compris ce qui se passe dans l'époque. Alors qu'il voyage en carrosse, et puis qu'il ait des perruques, et puis qu'il ait un appartement aussi sale que celui de Louis XIV, n'est-ce pas ? Où ça sentait tellement le pipi, paraît-il, n'est-ce pas ? Tandis que maintenant, Dieu sait quand même, nous avons fait certains progrès, n'est-ce pas ? Et au XXe siècle, celui qui ne fait pas de la tapisserie ou de l'art, ou qui ne réfléchit pas comme au XXe siècle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, mon Dieu, ils ont raison, les gosses. C'est un croulant, n'est-ce pas ? Eh bien, la majorité des ateliers et la majorité de la clientèle des ateliers d'Aubusson à ce moment-là, c'est-à-dire des acheteurs, c'était les croulants, n'est-ce pas ? Eh bien, ils en sont morts. Et financièrement et esthétiquement, la tapisserie, c'était une agonisante, n'est-ce pas ? Alors, je suis arrivé là, évidemment, vous pensez, j'étais pas de la région. J'étais un peintre, un parisien, et cette espèce de malin qui connaissait pas le métier, qui était même pas de l'arrondissement, s'il a été regardé d'un très mauvais œil. Et ça n'a pas été très commode, seulement, comme dans tout lieu, même en perdition, si j'ose dire, ou en délabrement, il y a quand même toujours des individus qui ont conscience que tout n'est pas perdu, vous comprenez, n'est-ce pas? Et il y avait un homme, notamment, et c'était vraiment avec lui que j'ai fait tout au début, en qui j'ai trouvé l'oreille la plus attentive, ça a été un homme, c'est François Tabard. François Tabard était un homme qui possédait un atelier qui avait été considérable, 300 ouvriers dessinateurs, un siècle et demi avant. Bon, mais l'atelier était à l'état plus que squelettique, n'est-ce pas? Et seulement, il possédait cet atelier de père en fils depuis 1637, c'est le plus vieil atelier du monde. Or, cet homme ne voulait pas, savait bien, vous se rendez compte que la tapisserie, ça marchait plus, etc. Mais au lieu de démissionner, il se cramponnait, il faisait des sacrifices pour maintenir encore 2, 3, 4 ouvriers, 5 ouvriers, comme ça, n'est-ce pas, pour sauver l'honneur du pavillon. Vous saisissez, comme les officiers de marine. Il aurait sombré avec le bateau. Et il est venu me trouver. Et il m'a dit, je ne peux pas croire à la mort de la tapisserie. Moi, j'ai dit, je crois à la renaissance de la tapisserie. Et nous nous sommes très vite entendus. Et la première tapisserie que j'ai faite, c'est de trouver avec lui. Ça a été une tapisserie de 18 mètres carrés, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit, la tapisserie ne peut recommencer que si elle est grande, et si, c'est ce que j'appelais avoir sa dignité, retrouver sa dignité. Ben mon Dieu, j'ai une chance. Elle était à peine terminée que je la vendais à un grand musée américain. Ça a quand même sustenté et donné une fameuse confiance, n'est-ce pas, à cet homme droit et ayant une grande conscience professionnelle qui s'est dit, donc ça peut. Il m'a fait confiance, on s'est fait confiance réciproquement, on s'est mis en route et le résultat, eh ben maintenant il a, je crois, 66 ouvriers. C'est le tapissier quand même de la ville d'Aubusson le plus important et ça tourne rond, très rond même.
Et en 1939, justement, on vous avait envoyé à Aubusson chargé d'une mission, je crois.
Oui. N'est-ce pas, l'administration des Beaux-Arts, comme toutes les administrations, elles ont des bons moments et puis elles ont des mauvais moments. Eh bien, mon Dieu, elle a eu un bon moment au moment de la guerre, n'est-ce pas? Il a été décidé qu'on enverrait à Aubusson pour tenter de sauver les dernières, de ranimer les dernières cendres, de souffler pour faire rougir les dernières cendres. On a décidé d'envoyer 3 peintres en mission. Grommer, Dubreuil et moi, qui avaient déjà un peu... Dubreuil, un peu approché la tapisserie. Alors nous avons donc été, si j'ose dire, mobilisés là-bas avec mandat de composer 4 grandes tapisseries de chacune 18 mètres carrés sur les 4 saisons, n'est-ce pas ? Mais avec obligation, nous installer à Aubusson. C'est-à-dire qu'on s'en dit, voilà, si la Providence désire que continue la tapisserie, eh bien, ils seront sur place, ils apprendront aussi leur métier, ce qui était extrêmement sage, c'est-à-dire métier de tapissier, et ils vont contaminer, ils vont prêcher autour d'eux les chefs d'atelier, etc. Et c'était, en somme, une vue extrêmement juste et logique et rationnelle. Nous avons été là et nous avons commencé à parler de l'art contemporain, de la nécessité d'être collé à son époque, etc. Et le résultat est que petit à petit, je le dis souvent en plaisantant, mais c'est vrai, eh bien mon Dieu, nous avons foutu la coqueluche dans la ville, vous comprenez. Et puis un certain nombre d'ateliers se sont mis à tousser époque contemporaine, n'est-ce pas? Et les préventions, petit à petit, se sont effondrées parce que, mon Dieu, ça se vendait. C'était ce qu'il en est des administrations, il en est des circonstances. Même ces guerres, enfin, cette honte du genre humain qu'est la guerre. Mais elle a aussi ses côtés positifs. Elle fait quelquefois même avancer les sciences. À ce moment-là, on ne pouvait pas acheter de chicorée, de chaussettes, de caleçons, de graisse, de voitures, de vélos, etc. Eh ben mon Dieu, eh ben on est devenu cultivé puisqu'on pouvait pas manger, n'est-ce pas? Ben rappelez-vous la poésie, le développement de poésie qu'il y a eu pendant la guerre. Or à ce moment-là, les gens avaient de l'argent mais ne pouvaient pas acheter de beurre. Eh ben mon Dieu, ils se sont mis à acheter de la peinture, de la sculpture, de la tapisserie, et au fur et à mesure, je sais, à la fin de la guerre, à l'atelier de Tabard où je travaillais, On avait commencé avec deux ouvriers. À la fin de la guerre, il y en avait déjà 26 ou 28 qui travaillaient à longueur de journée. Et on les vendait. Parce que il faut qu'une œuvre d'art, c'est pas le tout de l'affaire, mais il faut que ça se vende. Sinon, eh ben, ça stoppe, tout est cassé.
Juin 40 est arrivé, la défaite. Vous êtes resté à Aubusson encore un moment et puis vous avez dû quitter Aubusson.
Ah, j'ai dû quitter au milieu de l'occupation en 42. J'ai dû quitter Aubusson parce que j'avais le mauvais esprit. Le maréchal Pétain était venu à Aubusson et m'avait joué un mauvais tour personnel. C'est-à-dire qu'il a fait un discours à Aubusson où il a dit avec cet accent pathétique des grandes balourdises de l'existence, et nous recopierons nos chefs-d'œuvre anciens. On ne pouvait pas mieux causer comme une vieille et très vieille dame inculte de province. Alors à ce moment-là, je vous assure, je n'étais pas très... pour Vichy et pour l'Allemagne et pour l'occupation et pour les concessions qu'on faisait, etc., je me suis dit, décidément, le devoir, c'est d'être à l'opposé de ce monsieur. On ne doit pas recopier ses chefs-d'œuvre anciens, sans ça, ça veut dire qu'on est foutu. Ou des petits antiquaires de province. C'était l'opinion du maréchal, c'était une opinion contraire. Alors nous nous sommes, si j'ose dire, butés du front. Oh. Et c'est moi qui ai gagné. On ne fait plus maintenant pour les vieux salons des personnes attardées de province, on ne fait presque plus de copies d'anciens, c'est devenu un désastre. Tandis que la tapisserie moderne, maintenant, il n'y a plus assez d'ouvriers en France pour faire ce qui est demandé.
Et quand vous avez quitté Aubusson, vous avez rejoint le Maquis, je crois.
J'ai dû quitter Aubusson bien avant la fin parce qu'on m'avait rendu, on sentait que je n'étais pas très dans la ligne, très orthodoxe, n'est-ce pas? Alors le préfet qui était très gentil à ce moment-là m'a dit, j'ai un conseil à vous donner, vite, dépêchez-vous, partez. Je suis parti en 6 heures, la police arrivait. Il y avait eu les gentilles dénonciations habituelles de guerre. Je suis parti me cacher dans le Lot. Et là, j'ai eu la chance d'être invité dans un couvent de bénédictins qui pensait un peu comme moi, et sur la France, n'est-ce pas? Et le destin de la France est le devoir. Et je suis entré dans une cellule. On m'a mis dans une cellule, on m'a même permis d'avoir du tabac et même de l'alcool et tous les bouquins que je voulais. J'ai été planqué pendant un certain temps par eux et ça m'a permis d'échapper à la police qui est venue me chercher dans le Lot et puis qui a trouvé le nid du pigeon abandonné. J'avais un aide dessinateur, lui qui était resté, qui n'était pas venu avec moi. Eh bien, mon Dieu, il a fini la guerre à Buchenwald. Voilà ce que font certaines personnes dites françaises. Alors, j'ai fini par rentrer. À ce moment-là, certains conseils, un peu plus avisés que d'autres, ont persuadé le ministère des Affaires étrangères et puis aussi certains amis qui avaient assez bon esprit de mon angle, de mon point de vue, mauvais esprit pour leur administration, qui ont commencé à faire des émissions de radio, etc., Renaissance de la tapisserie, etc., etc. Et ben, puis on a fait un peu de potin autour de ça, et à ce moment-là, on s'est dit, ce serait quand même gênant de créer des ennuis à ce monsieur. On est venu me perquisitionner 2-3 fois de suite, n'est-ce pas? On a trouvé du tabac de contrebande, n'est-ce pas? Mais on n'a pas trouvé les choses dangereuses. Heureusement, parce qu'il y avait même des pétoirs. Alors, enfin bref, j'ai fini la guerre intact, juste avec une fuite d'un mois, où je me suis englouti à Bandol, je me rappelle, à Sanary ou à Bandol, dans l'atelier de Kissling, qui était lui en Amérique, et je suis resté un mois enfermé sans bouger, en travaillant, mais enfin sans sortir. Puis alors, comme j'avais préparé, j'ai organisé un groupe déjà de résistance dans le Lot, aussitôt qu'il y a eu le débarquement, alors a commencé quand même une des belles épopées françaises. Quoi qu'en pensent certaines personnes qui aiment trop le 16e faux, ou le 17e faux, ou le 18e faux.
Alors, vous avez été dans le Maquis pendant un certain temps.
j'ai été.
Vous avez été dans le maquis du Lot.
Le maquis, oui. J'ai trouvé là-bas une équipe, mon Dieu, d'hommes pas mal, n'est-ce pas? Les paysans du Lot, quand même, pensaient que nous étions 6000 dans le Lot. Nous avions notre poste de radio et qu'on entendait jusqu'à Alger. Nous avions une revue littéraire, nous avions des publications, nous avions un hôpital. On avait volé aux Allemands même une automobile chirurgicale. C'est-à-dire, on avait un équipement de pétard, n'est-ce pas? Alors, j'ai été tout de suite coopté au comité de libération du Lot. Et, mon Dieu, j'ai commencé à courir le département et à faire le travail qu'on faisait à ce moment-là. Heureusement, il ne m'est arrivé rien de fâcheux. Et c'est là où j'ai rencontré la seule femme du comité de libération, qui était une institutrice du Lot, qui était montée même au maquis bien avant le débarquement, et qui était la femme qui est maintenant la mienne. Quand je suis devenu veuf, nous nous sommes retrouvés par hasard et nous nous sommes épousés. Vous voyez que la résistance, en somme, elle a des périls, mais elle a aussi certains avantages, parce que j'ai une femme énergique, au moins.
C'est aussi quand vous étiez dans le maquis, dans le Lot, que vous avez un jour découvert la propriété, la forteresse du XIe siècle, les tours Saint-Laurent, où vous habitez maintenant la plupart du temps.
Oui, ça c'est ce que je dis toujours. Dans les temps de guerre, il y a des miracles et il y a des états seconds. J'ai vu un jour que j'étais en mission et que je descendais une côte, c'était par un soleil extraordinairement beau du mois de juin, une lumière grecque, vous savez, c'est très beau le Lot. Je descendais une côte avec mon garde du corps chauffeur, parce que comme j'étais le plus vieux, on m'avait donné un garde du corps qui était très grenadé sur les flancs et dans les boîtes à gants de la voiture. Et j'allais voir les militaires, l'état-major militaire, et j'ai vu tout d'un coup cette espèce de dessin de Victor Hugo que sont ce château fort quand même. Il y a des murs de l'an 900, tous les remparts encore, il y a des assises romaines, les Romains ont même été là et pensaient qu'il y a deux grandes tours de 33 mètres de haut romanes. Ça se voit de loin. J'ai vu tout d'un coup ça dans le soleil, j'ai été stupéfait et j'ai dit à mon garde du corps et copain de combat, cette phrase qu'il me répète, je ne crée pas de légende, lui il me le dit toujours, je veux crever si un jour ça n'est pas à moi. Bon, pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est ce que j'appelle l'état second, n'est-ce pas? Et il m'a dit, ce sont les tours Saint-Laurent, etc. Bon. Un mois se sont passés et deux mois se sont passés, nous avions occupé Cahors, les Allemands étaient en retraite, nous commencions à organiser le département, j'étais chargé de la presse, de l'information et des postes télégraphes. Comme mon père était receveur des postes, je suis devenu ministre des télégraphes seulement à l'échelle départementale. Alors ma carrière, ça a été vite terminée. Et j'avais un secrétaire, poète, intelligent, bien, tout ça, jeune, et qui avait comme nom Agamemnon. Vous voyez qu'en temps de guerre, on ne se refuse rien en temps de guerre. Son père est luthier à mots, il n'y a pas à discuter, il s'appelait Jean Agamemnon, c'était mon secrétaire. Et il m'a annoncé qu'une personne, une dame était là, avait quelque chose à me demander. Je fais grâce des détails. Cette dame, quand je lui ai demandé son identité, parce qu'on faisait encore très attention, m'a dit, je suis propriétaire à Saint-Céré. J'ai dit, à Saint-Céré, où il y a les tours Saint-Laurent? Elle dit, oui, c'est moi. Et alors, l'état second a recommencé. J'ai dit, mais vous habitez là seul, etc. C'est tellement grand, etc. M'a dit, oui, mais je suis veuve depuis un an et je veux vendre. J'ai dit, vous voulez vendre combien? Tant. J'ai dit, bon, c'est entendu, madame. Et j'ai tendu la main. Mais elle m'a dit, mais vous n'avez pas visité. J'ai dit, c'est le moment de visiter les immeubles. On verra ça quand on sera complètement débrouillé. Et j'ai acheté ça sans visiter. Et par chance, parce que si j'avais visité, je n'aurais jamais acheté. À 6 kilomètres, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas de toit. Et qu'il n'y a plus de toit. Sauf 4 pièces sur 14. N'ayant plus de toit, il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtre, etc. C'est-à-dire que j'ai acheté la super ruine. Et c'est là où je me suis super ruiné, on peut dire depuis 15 ans, 20 ans presque.
Mais c'est quand même la maison de vos rêves, un site admirable.
C'est étonnant et absolument nécessaire parce que c'est très très grand. Et j'ai par exemple un atelier de 18 mètres de long sur 6 mètres de haut, par exemple. Et pas un autre de 10 mètres de haut, etc.
Oui, on va passer à la... Merci, on va passer à la...
Dites justement, enfin, précisément.
Mais, tout à l'heure, je disais qu'il y a certains états seconds et certains miracles en temps de guerre, n'est-ce pas ? J'achète cette maison. Je n'ai pas le temps de la visiter parce que c'est encore la pleine bagarre, etc. Et que je m'occupe avec tous mes amis d'administrer le département. Le préfet un jour m'appelle et me dit « Mais dis-moi, tu as acheté l'allée Tour-Saint-Laurent ? » Oui. Eh bien, maintenant, on peut te le dire. Tu sais que tu étais chargé de parler tous les jours à la radio à 10h10 le soir, 22h10 le soir, et faire l'appel à la population. Enfin, je leur disais, cultiver, si vous avez un jeune fils de 20 ans et qui est fin ou un peu de service militaire, etc., envoyez-nous-le pour les groupes constitués actifs. Ce qu'on appelait les groupes tactiques, enfin, les combattants, etc. Et puis que les autres, nourrissez les gens des villages brûlés, enfin des choses de ce genre-là. Bien. Or, il me dit, eh bien, écoute, tu sais que tu parlais tous les soirs. Je dis, oui, mais je n'ai jamais su où. C'était une mesure de sécurité, n'est-ce pas ? J'écrivais mon laïus, et un motard venait le chercher, on le transportait où ? Mais je l'entendais après, et celui qui disait ne savait pas qu'il avait écrit, n'est-ce pas ? Nous étions très, très bien organisés sur ce terrain-là. Eh bien, il me dit, eh bien, mon vieux, c'est fort simple. Le poste de radio était installé au Tour Saint-Laurent que tu viens d'acheter. Ce qui prouve, en somme, que dès le premier moment de l'insurrection dans le Lot, où je parlais dans un coin, je parlais déjà chez moi. C'est le même coup que le secrétaire qui s'appelle Agamemnon, si vous voulez. Vous ne voudrez pas ? N'est pas sans... Je ne souhaite pas pour ça qu'il y ait des guerres, pour qu'il y ait des miracles.
Sûrement pas. Alors, dans ces tours Saint-Laurent où vous êtes installé maintenant, décrivez-nous un peu la vie que vous menez, comment vous vous êtes organisé, votre vie avec la tapisserie, en fonction de la tapisserie, pour la tapisserie.
Ah, là, je ne fais absolument que de la tapisserie, n'est-ce pas ? Je ne fais pas du tout de gouache ou de lithographie, etc. Je vis là avec ce que j'appelle mes internes, c'est-à-dire que j'ai toujours 2, 3, 4 assistants. J'ai un assistant, moi, qui est devenu presque comme mon fils, puisqu'il y a 16 ans qu'il travaille avec moi comme, si j'ose dire, chef de clinique, n'est-ce pas ? Et ce sont des assistants qui sont en même temps des élèves, si vous voulez. C'est-à-dire souvent, ce sont des boursiers d'État étrangers qu'on m'envoie pour qu'ils viennent là apprendre la technique. Et qui m'aident, comme ça se passe en chirurgie, qui aiment le patron à opérer le pauvre gars qui est sur la table, sur le billard, n'est-ce pas ? Alors nous vivons là tous en commun, c'est-à-dire qu'ils habitent chez moi, ils sont invités chez moi, on mange tous à la même table, et je leur demande aussi de ne pas faire trop élèves, c'est-à-dire de ne pas craindre, et je leur demande même, je considère ça comme une obligation, quand il arrive une nouvelle tapisserie, je dis allez, tout le monde à la critique. Moi je commence par faire la critique, je dis du bien ou du mal de la tapisserie, n'est-ce pas ? Et eux doivent à tour de rôle dire « Et moi, je pense telle et telle chose, etc. » N'est-ce pas ? Il y a donc vraiment du travail en commun. C'est-à-dire du travail, bon Dieu, comment travailler à des moments où on savait ce que c'était que le travail bien fait, ouvrier, sérieux, qui devait durer longtemps, etc. C'est-à-dire au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Et j'ai repris, en somme, si vous voulez, ces bonnes habitudes. Et je vous prie de croire que tout le monde y gagne, aussi bien le patron que l'apprenti.
Et comment travaillez-vous ? Vous dessinez un carton et ensuite...
Ah, Oui, évidemment, n'est-ce pas, qui correspondent aux laines différentes, n'est-ce pas, qui c'est. Alors ça, c'est ça qu'ils apprennent à faire, et c'est là où j'ai besoin d'aide, n'est-ce pas. De même qu'un chirurgien, quand il a ouvert un ventre, c'est pas lui qui le recoue, il a un bon aide, un bon bras droit qui recoue. Eh bien, ils font ces travaux-là, et ils assistent à l'éclosion, et toujours, je les entretiens de la façon dont j'entends la composition et sur quel plan poétique je vais résoudre le problème, etc.
Un peu partout dans le monde, après le renouveau de la tapisserie provoqué par vous en France, une impulsion a été donnée. Des ateliers se sont créés ou se sont réveillés. Pouvez-vous nous en parler ?
Ah, écoutez, en ce moment, il y a un réveil de la tapisserie, on peut dire dans le monde, n'est-ce pas ? Puisque ça contient tout, je crois, qu'il n'y a qu'en Australie. N'est-ce pas ? Mais en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, en Chine, à Tokyo, enfin au Japon, partout, je le sais puisque je suis allé dans tous ces pays, n'est-ce pas ? J'ai déjà fait 18 pays différents dans 4 continents, comme si vous voulez, médecin consultant, n'est-ce pas ? On me fait venir de là-bas. Comme j'adore voyager, alors tout le monde est content. Mais partout, ça marche avec une très grande intensité, et c'est la preuve, par neuf, que c'était un besoin. Puisque partout où les ateliers s'ouvrent, partout, ils deviennent très vite en crise de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, en somme, d'exécutants, n'est-ce pas ? Enfin, je vais vous en donner un seul exemple. À Bahia, dans le nord du Brésil, où je passais il y a à peu près 10 ans, j'ai convaincu un peintre qui avait été à l'école de Paris ici, élève de l'autre, je veux dire, et qui était très doué pour le mur. Je lui ai dit, mais bon Dieu, pourquoi vous ne faites pas de la tapisserie ? Alors, je lui ai donné tous les tuyaux, je lui ai envoyé des livres, etc. Et ils viennent de me télégraphier il y a à peu près 1 an. Nous sommes réunis tous, peintres, etc. Et nous vous envoyons nos amitiés. Nous sommes en train de fêter le 4 millième mètre carré de tapisserie tissée et vendue. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vais en Égypte, là, et je vais trouver, m'a dit un révérend père Ackerman, que j'ai rencontré au Maroc, lui, il était en congé au Maroc. Il y a un atelier du côté d'Assouan, égyptien, dessinateur, enfin, dessin d'égyptien, il paraît très bien, surtout des très jeunes employés, et qui dit, on ne peut jamais garder une tapisserie. On pourra difficilement vous en montrer, sauf une ou deux, ça part tout de suite. Vous saisissez, n'est-ce pas ? Il en est de même à Tokyo, il en est de même en Hollande, il en est de même... Certains ateliers qui étaient réduits à l'état de squelette se sont réveillés, et, tandis que dans d'autres pays, par exemple comme Catalogne, à côté de Barcelone, où je les ai aidés, il y a un atelier maintenant qui fonctionne à bloc. Au Portugal, il y avait un très bon atelier, mais qui bougeait pas, ou difficilement, etc., n'est-ce pas ? Avec peu de réussite, etc., au point de vue vente, etc. Eh bien maintenant, ils travaillent à bloc, n'est-ce pas ? Et même, ils ont déjà exécuté une douzaine de mes tapisseries, n'est-ce pas ? Parce que nous manquons en France maintenant nous manquons de main-d'œuvre, et si on ne comprend pas qu'il doit y avoir une politique de formation rapide, accélérée, c'est le terme d'ailleurs, de tapissiers, nous allons, d'ici peu de temps, beaucoup de peintres français à être obligés de faire exécuter nos tapisseries à l'étranger, nous qui avons mis la chose aux choses. Ce serait vraiment un peu burlesque et surtout stupide.
Vous parliez de votre voyage en Chine populaire il y a un moment. Est-ce que votre voyage en Chine vous a apporté une expérience esthétique nouvelle ?
Esthétique nouvelle, sur le plan tapisserie, pas. Parce que ils n'en faisaient plus, ils m'en ont donné un petit morceau qu'ils avaient fait, je ne sais pas où. Vous savez, c'est difficile quand on ne connaît pas la langue. Mais j'ai été surtout frappé par... C'est surtout le paysage et la ville de Pékin. La ville de Pékin est une ville de toute beauté. Pour moi, il y a 3 villes au monde, les plus belles, c'est Pékin, c'est Rome et c'est Paris. Mais la grandeur, par exemple, les paysages de la grandeur de la Grande Muraille de Chine, le désert du Gobi, etc., m'ont donné, en somme, ce même sentiment du sacré que je viens de trouver, que je vais sûrement trouver en Égypte, par exemple, ou que j'ai trouvé à Delphes, en Grèce. N'est-ce pas? C'est le grand paysage, sans petits détails, etc. Et puis alors, le paysage comme je les aime, nu, dur, aride, et qui engendre, en somme, de l'énergie, de la nervosité, et puis le sentiment d'un certain non-fini, ou infini, si vous voulez.
Pouvez-vous évoquer vos amis des jeunes années, ceux avec lesquels vous aviez fondé la revue Les Feuilles de Mai en 1913, Rainer Maria Rilke, Charles Vildrac, Pierre Ampe, Élie Faure, Bourdelle?
Ah oui, enfin, les deux plus importants, certainement, seront Rainer Maria Rilke, que j'ai retrouvé d'ailleurs après la guerre en Suisse, chez Ferruccio Busoni, c'est déjà une génération, on ne sait plus, c'est le sort des virtuoses, n'est-ce pas? Mais l'homme certainement le plus important dans ma jeunesse, ça a été Élie Faure, parce que Élie Faure venait d'écrire L'histoire de l'art, paru chez Cresse, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Non, quand vous aurez des cheveux blancs. c'est paru vers 1912 ou même 11, je sais. Je sais que j'avais lu ça, la préface, et j'avais été strictement bouleversé. Et je peux même dire une chose. J'étais jeune, j'étais sentimental, provincial. Bon, ça m'a fichu dans les larmes. Bon. À ce moment-là, nous étions quatre amis. Un ouvrier bijoutier de Charonne, du Père Lachaise, vous savez, le vieux de vieille famille, je veux dire, parisienne. Ils avaient tous été dans des procès pour la République, enfin, etc. Et c'était le syndicaliste de notre bande. Il y avait un poète d'origine polonaise, docteur en médecine, mais qui avait tout lâché pour faire de la poésie, qui s'appelait Jablonski, vous voyez. Il y avait un ingénieur naturalisé français, qui était le fils d'une doctoresse émigrée de Russie pour socialisme, qui s'appelait Tchlenov. Et puis moi, et nous avons fondé les Feuilles de Mai en sachant ce que nous voulions faire. Et vous le dire, le premier numéro est sorti le 1er mai 1913 par conséquent. Et là-dedans, nous avions comme collaborateurs Émile-Antoine Bourdelle, Vildrac, Pierre Ampe, Rainer Maria Rilke, dont on a fait tirer, Richard Demord, l'écrivain allemand, etc. Nous voulions, à ce moment-là, une fusion des éléments intellectuels et populaires, si vous voulez. En somme, ce qu'on veut faire maintenant dans les maisons des cultures, tout simplement, n'est-ce pas? Et nous disions, l'artiste n'est pas du tout un individu excentrique à la société, c'est un individu qui est en plein engagé dans la société et qui doit subir les sorts et les destins et les combats de la société pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Et cette revue, donc, est sortie, je vous dis, le 1er mai 1913, Et elle a provoqué une certaine émotion parce que c'était une position un peu nouvelle, vous comprenez, enfin nouvelle même, n'est-ce pas? Et puis la guerre est arrivée. Ben, nous avions aussi comme collaborateurs Jean-Richard Bloch, Romain Rolland, qui était, mon Dieu, notre Dieu à ce moment-là, notre guide spirituel, etc. Seulement la guerre est arrivée en 1914 et évidemment, les beaux feuilles de mai, elles ont été pourrir dans les tranchées.
Et vous disiez que vous avez retrouvé Rilke en Suisse après.
Ah ben Rilke, je connaissais Rilke, oui, aussi je l'avais rencontré plusieurs fois. Et puis alors la guerre était arrivée, lui était de l'autre côté, le pauvre vieux. Et puis alors tout d'un coup, j'ai appris quand j'ai été démobilisé en arrivant à Genève, comme j'étais engagé volontaire, je m'étais engagé parce que je voulais pas quand même jouer à l'infirmière à 20 ans à Paris ou. Et J'ai été démobilisé très vite. Et alors j'ai rejoint la Suisse, où j'avais beaucoup d'amis, dont Ferruccio Busoni, Jeanne Bucher, qui a fondé, vous savez, la galerie Jeanne Bucher, etc. Alors je suis parti à Genève, et à Genève, tout d'un coup, on m'a appris que Rilke se baladait dans les rues de Genève en disant « Il paraît que l'URSSAF va arriver ici et me chercher ». Et alors on s'est mis à chercher dans les rues de Genève, on ne s'est pas trouvé. Jamais. Enfin, les coïncidences ont fait qu'on, les circonstances ont fait que nous n'avons pas pu nous retrouver. Et je suis allé alors à Zurich voir Ferruccio Busoni, qui était installé là-bas, qui venait d'être nommé professeur honoris causa de l'université de Zurich, etc. Et puis qui était un ami. Et j'arrive et je lui dis, eh bien, écoutez, je viens vous voir, vous serrez la main, je suis sorti de cette histoire vivant, vous voyez, en bon état, etc. Il dit, oui, je sais bien, vous déjeunez avec nous à midi, tiens, ça vous fera peut-être plaisir, Rainer vient déjeuner. Nous nous sommes retrouvés tous les trois, on s'était connus tous à Paris, et on s'est retrouvés, chose. Et c'est drôle que, là, c'est pour ceux, enfin, qui entendent ça et qui ont connu Rilke ou qui l'admirent, Rilke nous disant « Oui, j'étais soldat, j'étais chargé d'allumer les feux dans, à l'état-major, les fourneaux, c'est tout ce dont il m'avait trouvé capable. Et comme mon nom, Rainer Maria Rilke, était un peu compliqué, alors on m'appelait Ave Maria Rilke. »
D'autres techniques que la peinture, la gouache, la tapisserie vous ont tenté, la lithographie, la céramique, les bijoux?
Oui, écoutez, et c'est ainsi que moi je fais pour me détendre. Quand je suis fatigué de la tapisserie, je pars dans le midi, je fais de la gouache. Quand je suis fatigué de la gouache, je fais de la céramique. Et quand j'ai 8 ou 10 jours de libre, etc. Par exemple, Patek et Philippe, avec lequel je fais 10 bijoux, m'ont envoyé leur meilleur joaillier, etc., qui vient autour avec moi au Saint-Laurent, et puis il m'explique la technique, on fait des bijoux ensemble, etc. Je fais de la céramique, je fais de la lithographie. En ce moment, je me prépare à illustrer un grand livre de Giono, par exemple, mais toujours avec le même côté artisanal et le côté collaboration, n'est-ce pas? J'ai, si vous voulez, par exemple, pour ma céramique, j'ai un homme qui est mon bras droit. La preuve, c'est que je signe maintenant avec son nom. C'est Goumila, qui est le chef d'un atelier, qui est lui-même céramiste, à Perpignan, chez Bobby, n'est-ce pas, la poterie Bobby, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, j'ai fait aussi quelques bijoux avec François Hugo, qui est un joaillier de tout à fait grande envergure, etc., n'est-ce pas? On travaille bien maintenant. L'époque, celui qui ne comprend pas que l'époque n'est pas une époque d'équipier, il est à côté. Vous comprenez? C'est un, s'il est peut-être sublime par exemple, mais c'est un anarchiste, et surtout qui se prépare à voir avoir s'échapper beaucoup de compréhension, à passer à côté de beaucoup de préhension d'événements, n'est-ce pas? Quel est l'architecte maintenant qui travaille seul? Celui qui bâtit les maisons des passages à niveau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand on fait l'UNESCO, le Palais du Travail ou l'ONU, mais bon Dieu, on est 40, 50, etc., comme les docteurs, comme les mathématiciens même, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous, évidemment, peintres, nous avons la création qui se fait seule, mais aussitôt après, et surtout dans l'art mural, puisque moi je suis un peintre mural, mais ça implique des équipes, n'est-ce pas? Et des équipes cordial. Au moins, on y apprend l'humain.
Qu'avez-vous voulu exprimer dans votre dernière et grandiose série de tapisseries qui est exposée en ce moment-ci au Musée des Arts Décoratifs, Le Champ du Monde?
Eh bien, Le Champ du Monde, vous savez, on est... En somme, le monde, quand on y réfléchit et qu'on a, comme moi, qu'on est un peu talonné par la vieillesse, quoi, on se rend compte que le genre humain, enfin, tous ces individus qui habitent Terre, c'est toujours le combat du bien et du mal, n'est-ce pas? Eh bien, mon Dieu, c'est le bien et le mal. Je ne suis pas un moraliste, je ne suis pas... je sais pas, militant, là, ne fait pas des discours sur les places en disant « sauvez votre âme et défendez l'orpheline et la veuve », n'est-ce pas ? Mais quand même, il y a des moments où il est nécessaire de prendre position sur des problèmes essentiels et qui concernent le destin de l'homme. Eh bien, le destin de l'homme, en ce moment, il n'y a pas de doute. Il est menacé, il est terriblement menacé. Je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'on voit maintenant cette espèce d'insurrection non seulement morale, mais si j'ose dire, hein, en parlant d'insurrection diplomatique, le pape est pour la paix, Khrouchtchev est pour la paix, Kennedy était pour la paix, De Gaulle parle de l'épouvante atomique, etc. Vous comprenez ? L'homme maintenant se rend compte que s'il ne commence pas à être un animal, un homo sapiens, un homme sage, il ne sera bientôt plus que un cadavre et donc vite une pourriture. J'ai été à Hiroshima, alors je sais de quoi je parle, vous comprenez, j'ai été voir l'épouvantable honte dont nous sommes tous responsables, n'est-ce pas ? Et dont les savants qui travaillent, par exemple, pour la recherche atomique sur le plan militaire, doivent se sentir aussi, quelquefois, avec des rêves et des remords durant leur nuit. Parce que si nous lâchons la bombe sur le monde, eh bien, nous sommes vraiment les plus grands imbéciles que les divinités auront jamais créés. N'est-ce pas ? Alors, ma tapisserie, c'est ça. Il y a 4 ou 5 grands panneaux qui s'appellent « La grande menace »,« L'homme d'Hiroshima »,« Le grand charnier » et « La fin de tout », parce qu'au fond, ce serait la fin de tout. Je n'exagère pas. Nous sommes tous d'accord là-dessus, et les savants, et les chefs d'État encore plus, qui ont plus de renseignements. Ce serait la fin de tout. Eh bien, mon Dieu, j'aime pas me sentir faisant partie de groupes passifs devant, en somme, cette menace, non seulement sur le destin de l'homme, mais sur sa dignité. Parce que si ça éclate, nous sommes tous des indignes. Les uns pour l'avoir pressé de bouton, et les autres pour n'avoir pas assez résisté à cette menace, n'est-ce pas ? Alors, c'est le premier départ de cette grande torture que j'appelle le champ du monde. Aussitôt après, il y a alors le problème supposé résolu et dans le sens humain, dans le sens propre et dans le sens digne. Et c'est cette grande torture, c'est la plus grande de toutes d'ailleurs, qui s'appelle l'homme en gloire dans la paix. Comme on dit, Christ en gloire, n'est-ce pas ? Et après, d'autres panneaux qui vont durer, j'en ai encore pour à peu près 4 ans à travailler là-dessus, ben oui, elle doit avoir 500 mètres carrés quand même, 125 mètres de long, cette tapisserie, n'est-ce pas ? Elle en a déjà 82 mètres de long, c'est déjà un petit bloc. Alors là, il y a, j'ai débuté par une tapisserie qui s'appelle Champagne. Champagne, ça ne veut pas dire vin champagne, ni mousseux de noces de campagne, n'est-ce pas ? Champagne, ça veut dire optimisme, vous comprenez ? La paix, eh bien, quand on me parle de paix, moi je deviens euphorique, vous comprenez ? N'est-ce pas ? Des luttes d'idées, des luttes de convictions, tout à fait d'accord. Mais des luttes d'ivrognes qui se battent entre eux et qui s'assassinent à coups de baïonnettes scie ou de bombes qui détruisent des vieilles choses, ça, je trouve ça sale. Il n'y a pas d'autre mot, sale. Et puis, si j'étais chrétien, je dirais profondément anti-chrétien. Alors, il y a Champagne, et puis à un certain moment, tout d'un coup, il y a eu ces adorables fous qui ont été Gagarine et l'autre, dont le nom m'échappe en ce moment, l'Américain qui était dans les pamplemousses, vous savez. Enfin, il y a eu les... peu importe son nom. Enfin,
Glenn.
Comment Glenn, c'est ça. Alors, à ce moment-là, tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà. Un des faits positifs de l'homme et qui prouve sa dignité, sa curiosité, parce que c'est une partie de la dignité de l'homme, la curiosité et la confiance, n'est-ce pas, dans l'avenir. Il y a eu donc ces vols dans l'espace, et c'est alors que j'ai fait cette grande tapisserie qui s'appelle « La conquête de l'espace ». Et puis après, j'ai été très frappé par certains poèmes, notamment de Saint-Jean de Perse, et j'ai fait cette très grande tapisserie, encore plus grande, qui s'appelle « La poésie ». Il y en a une qui se tisse en ce moment, justement, à l'atelier Tabar, parce que Ta barre a été mon plus gros collaborateur, si je cire, dans l'histoire. Presque tout a été fait dans son atelier. C'est la grande colonne dont je n'ai pas encore trouvé le titre, une grande colonne avec un grand soleil, parce que le soleil, pour moi, c'est le mouvement, donc la vie, donc l'avancée, la chaleur, etc., etc. Alors, vous voyez, et puis ça va continuer comme ça jusqu'à ce que je sois un croulant.
Stop. Voyons, est-ce qu'il... Est-ce, voyez, un développement futur de la tapisserie?
Mais ce développement est déjà diablement important, mais à mon sens, il n'est absolument qu'à ses débuts et à ses tout petits débuts, parce que ça n'est pas l'effet du caprice d'un ou de plusieurs individus, ça n'est pas l'effet d'une mode, c'est la réponse à une nécessité. Voilà un phénomène qui se passe actuellement dans le monde. Je vous dis, après avoir rôdé dans 4 continents, on s'aperçoit quand même de certaines petites choses, de petits événements. J'ai constaté aussi bien à Tokyo qu'à Pékin, qu'à Rio de Janeiro, qu'à Abidjan, ou à Copenhague, ou à Moscou, que maintenant, les bâtiments deviennent énormes et sont dénués de ces, par exemple, sculptures de façade que nous avions au Moyen-Âge, et à l'intérieur des chambres, des vestibules, des appartements, si vous voulez. Vous savez, c'est la nudité, enfin, c'est le manque de moulures, etc. On a nettoyé, on a décapé, n'est-ce pas ? Or, beaucoup de ces grands bâtiments sont bâtis souvent par de très très grands organismes, ou culturels, ou religieux, ou économiques, ou politiques, ou de diffusion, etc. Enfin, vous voyez le bloc de la radio-télévision française, il a eu besoin de fameux murs, du mur là-dessus, on les a tatoués ces murs, n'est-ce pas ? Or, il y a aussi dans toute œuvre d'art qui orne un mur ou une façade, il y a une réponse, en somme, à ce besoin de manifester sa force, sa puissance, et en même temps, le côté passionnel, le côté lyrique de l'homme. Nous ne sommes quand même pas faits pour bâtir des caisses de chocolat meunier nues et froides et non passionnelles, n'est-ce pas, sans lyrisme, n'est-ce pas? Il faut donc que ces murs, tout d'un coup, ils concernent l'homme. Ils le touchent aux tripes, n'est-ce pas? Eh bien, la fresque, c'était fait pour toucher aux tripes. La tapisserie, c'est fait pour toucher aux tripes. La mosaïque, la céramique, le vitrail, etc. Tous les arts d'architecture en ce moment sont en développement prodigieux dans le monde. Et on retrouve les techniques, n'est-ce pas? Or, ces grands organismes, je vous dis, sont bâtis par de grands organismes, n'est pas, qui ont, eux, de très grands moyens. Enfin, je vais donner un exemple, et je m'excuse de parler d'une façon personnelle, mais je suis bien obligé, puisque j'ai mon expérience, où j'en suis sûr, là. Je viens de faire, par exemple, une de très grandes tapisseries pour la compagnie Nestlé, à Vevey, là, dans le bureau central, si je veux dire, le poste de commandement, ce qu'ils appellent le poste de commandement international, n'est-ce pas? Ils ont 170 usines dans le monde. Bon, ils ont un monument magnifique là-bas, un bâtiment magnifique. Ben, j'ai fait le grand salon de réception, n'est-ce pas, où tout le monde passe. Bon, je viens de faire la même chose chez Bayer, près de Düsseldorf, où il y a 30 000 ouvriers, donc des salons qui doivent être, ou des salles de réception, qui doivent démontrer la puissance de la société. J'en ai fait pour ce Trust International des graisses et des huiles, Unilever. J'en ai fait pour le Palais Farnèse à Rome. Je viens de terminer une première tapisserie de 100 mètres carrés pour la mairie de Cologne. Et je vous fais grâce d'autres grands bâtiments, grands buildings de cet ordre-là, n'est-ce pas, où ces grands murs doivent être, en somme, décapés de leur nu, c'est-à-dire de leur silence, c'est-à-dire de leur inhumanité, n'est-ce pas. On les rend tout d'un coup humains, vous comprenez, avec, en somme, des histoires qui concernent le destin de l'homme, les passions de l'homme, les amours de l'homme, etc. Donc, la tapisserie, à cause de ce nu, n'est pas, est obligée de se développer d'une façon très cohérente et fatale, et tout le monde y gagne, n'est pas, aussi bien l'architecte qui vous les demande, puisque c'est quand même lui qui doit avoir tous les droits, c'est le maître d'œuvre, n'est-ce pas ? L'artiste, puisqu'il a de vastes surfaces à décorer, donc il respire profondément et largement dans son travail, et le public, c'est en somme un moyen, la liaison, ce fameux fossé entre l'artiste et le public, il se comble très particulièrement avec ça, et plus qu'avec la collection privée de tableaux.
Et cela continuera.
C'était un entretien avec Jean Lursa au micro de Gilberte Brossolette, enregistré en février 1964.